Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes avec 4 invités, donc à commencer par Amélie. Bonjour.
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 Amélie, vous faites partie de la... C'est un collectif ou une association, les Décroissants de Thunes ?
Alors, les Décroissants de Thunes, c'est un collectif.
Puis aussi, vous participez au magasin gratuit.
Oui, le magasin gratuit qui, pour le coup, là, est une association dont le but est de créer un magasin gratuit.
Ensuite, nous passons à Jean-Louis Sagot du Vauroux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici à Die. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 20. Et vous serez ce soir à l'espace social où vous donnerez une conférence, débat, avec comme thématique la gratuité.
Oui, c'est ça. Oui, J'ai écrit un livre il y a en 1995 qui s'appelle toujours Pour la gratuité, qui a été réédité 2 fois par un éditeur très particulier, un très bon éditeur d'ailleurs, les éditions de l'Éclat, qui ont la particularité de mettre les textes des livres qu'ils éditent à libre disposition sur Internet.
Et vous êtes dramaturge également, hein ?
Alors j'ai une activité aussi, j'écris pour le théâtre et pour le cinéma, mais ça c'est un peu loin parce que c'est au Mali qu'est centrée mon activité proprement artistique. Donc en fait j'ai 2 activités d'écriture, l'une des essais de réflexion sur la vie sociale et l'autre donc c'est pour le théâtre et le cinéma.
Ensuite, nous sommes avec Françoise. Bonjour.
Bonjour.
Françoise, vous faites partie aussi du magasin gratuit.
Exactement. Donc, on a créé l'association avec Amélie et Benjamin. C'est tout récent. Elle vient de sortir. Et en fait, moi, j'ai découvert, puisque à l'origine, je suis aussi coprésidente du Conseil local de développement. Et à une époque, il y a eu une réflexion publique sur nos poubelles, parlons-en. Donc sur tout ce qui était de la récupération, pour ne pas jeter. Et de fil en aiguille, donc il y a un comité de pilotage qui s'est créé donc, en partenariat donc, avec la CCD, puisque la CCD organisait la refonte des déchetteries. Et dans ce comité de pilotage, eh bien, j'ai rencontré, entre autres, Amélie. Et j'ai eu envie de leur donner de mon temps.
Et puis, pour terminer ce tour de table, Marie, également, vous faites partie des Décroissants de Thunes.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Bonjour.
du coup, je fais partie tout récemment des Décroissants de Thunes. Le projet, du coup, me parle beaucoup du festival. Également, le magasin gratuit. J'ai auparavant déjà ouvert ma recyclerie dans le Vercors, qui marche très bien, et envie de continuer finalement de prouver, de faire prendre conscience aux gens d'arrêter de jeter et de moins gaspiller. Voilà.
Tous les 4, vous êtes ici pour nous parler de gratuité. Donc un mouvement qui s'est lancé depuis quelques années sur le Diwa avec les Décroissants de Thunes. D'ailleurs, vous préparez pour le prochain été aussi ce grand retour à Barnave au mois de juillet. On en reparlera tout à l'heure. Surtout, donc, ce qui s'y passera aujourd'hui à l'espace social. Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner un petit peu l'emploi du temps de cette journée ?
La conférence va débuter aux alentours de 18h. Puis environ jusqu'à 19h30, j'imagine, avec un temps repas autour d'un buffet partagé. Chacun amène à boire, à manger, on partage ce temps-là pour laisser décanter un petit peu toutes les informations qu'on aura eues, pour ensuite rebondir sur un débat jusqu'à l'heure qui nous conviendra à tous.
On peut demander déjà aussi à Jean-Louis Sagot de nous définir ce qu'est la gratuité.
Alors donner une définition de la gratuité, c'est pas facile. Je parlerai peut-être d'un grand paradoxe, c'est que quand on parle de gratuité, quand on dit le mot gratuité, souvent on entend dire « bah non, la gratuité, ça n'existe pas ». Et en fait, quand on réfléchit à nos existences, on se rend compte que non seulement ça existe, mais que c'est absolument central dans nos existences. C'est-à-dire que quand, si je dis que quelque chose est sans prix, ça veut toujours dire que ça a beaucoup plus de valeur pour moi dans ma vie que si je pouvais l'évaluer monétairement. Ce qui donne sens à notre vie est sans prix. Et donc, on vit avec ce paradoxe d'une société dans laquelle il y a une sorte d'omnubilation marchande, où on a l'impression que la valeur des choses n'est marquée que par le prix ou que par une évaluation monétaire. Et en réalité, ce n'est pas du tout notre expérience. C'est-à-dire que quand je... Imaginons par exemple que je sois puériculteur, je vais vendre une partie de mon temps pour faire des gestes éducatifs avec des petits-enfants. Je rentre à la maison, je fais les mêmes gestes avec mes enfants. Si demain mes enfants me disent « je te rembourserai papa », je ne le prends pas pour une bonne nouvelle. Parce que l'amour de ces enfants, la mission de leur transmettre de l'éducation, du savoir, etc., est considéré comme sans prix, comme quelque chose qui ne s'évalue pas monétairement. Et on pourrait prendre 1000 exemples de ce type qui montrent que la gratuité est plus centrale, d'abord elle est beaucoup plus ancienne, mais est plus centrale dans nos existences que le marché. Les deux existent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où le marché a pris le pouvoir sur les imaginaires, ce qui rend la question de la gratuité un peu floue et peut-être ce qui rend utile des débats comme celui qu'on fait ici à Die.
Ça me fait penser à la matérialité des choses. Est-ce que c'est le matériel ou le matériau devrait être gratuit, vous pensez ?
Il y a énormément de choses matérielles qui sont gratuites. La lumière du soleil est gratuite. Les paysages, c'est de la matière, c'est pas de l'esprit. On les regarde gratuitement, etc. C'est-à-dire que notre corps, la plupart des gens ne vendent pas leur corps. C'est de la matière. On se partage nos corps dans l'amour, dans les relations intimes, etc. La plupart du temps, ça se fait hors économie monétaire. Donc c'est vraiment, c'est la vie matérielle, la vie spirituelle sont marquées par une puissante existence du gratuit.
On peut définir un petit peu ce qu'il en est de la gratuité dans le Diwa.
La gratuité dans le Diwa, c'est quand même un fonctionnement qui n'a pas attendu les décroissantes thunes. Il y avait déjà un petit peu des initiatives de cet ordre-là, mais c'est vrai que nous, on a impulsé une certaine régularité quasi mensuelle des gratiférias. Il y a des zones de gratuité qui existent dans le Diwa, notamment à l'espace social, mais aussi dans d'autres endroits que je n'ai pas forcément en tête. Après, si on pousse un petit peu hors Diwa, mais vraiment aux portes, en assaillant avec l'abri du besoin, qui est un lieu qui fonctionne pas mal du tout en toute autonomie. Là, on a le magasin gratuit. Il est né parce que il y avait une envie de la part des élus, en tout cas, que la gratuité puisse exister au sein de la ressourcerie. Donc, on est venu nous chercher parce qu'on avait déjà cette expérience-là et du coup, il y a un projet qui va être un peu plus ancré et qui fait vraiment partie de la vie du territoire qui se met en route. Et puis, on sort d'une rencontre aussi avec Village Vivant qui ont dans l'idée d'installer des boîtes à dons. Donc, on s'est retrouvés, puisque nous-mêmes, on est en pleine réflexion, on aimerait proposer aux bailleurs sociaux d'installer des boîtes à dons dans les quartiers pour faire vivre cet échange qui existe déjà entre les habitants, mais qui est complètement désorganisé et ne convient pas du tout aux bailleurs tel qu'il est fait actuellement. Voilà.
Ces boîtes qui recueilleront les dons seront gérées par des bénévoles, je suppose, gratuitement. Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Et ça, il y a une population qui s'engage dans cette démarche.
Eh bien, déjà, nous, les collectifs Décroissantes Thunes et Magasins Gratuits, c'est quelque chose qu'on a envie de maintenir, mais aussi les habitants des quartiers se mobilisent dessus, puisque ça leur apporte dans leur vie quotidienne. Et puis, il y a aussi d'autres groupes d'habitants. Par exemple, la zone de gratuité de l'espace social est déjà gérée par un collectif d'habitants.
Françoise, vous-même faites partie donc du magasin gratuit. Qu'est-ce qui vous a, touché pour pouvoir vous engager dans cette démarche ?
Disons que j'ai déjà trouvé que ce nouvel acteur autour de la table était une visibilité supplémentaire dans tout ce qui était de remettre à disposition des biens qui n'ont plus un usage pour certains, mais qui peuvent redonner vie chez d'autres. Donc ça, moi, ça me parle parce que, bon, je n'aime pas jeter. Et c'est pour ça que, bon, je m'étais engagée un petit peu dans ce collectif de ressourcerie.
Et cette démarche de la gratuité nécessite forcément, par exemple, des locaux pour gérer les dons. Ces locaux, vous les avez gratuitement aussi ? Est-ce qu'il y a une démarche de propriétaires qui fournissent des locaux gratuitement ?
Alors, disons que actuellement, donc nous, avec la communauté de communes, il y a une réflexion justement sur la mise à disposition de locaux, donc dans cet esprit aussi de gratuité, pour lequel je pense la communauté de communes a une volonté forte en fait de rendre visible justement cette économie entre guillemets sur le territoire, cette économie du recyclage, et puis que tous puissent avoir accès justement aux biens inutilisés. Donc actuellement, effectivement, il y a des discussions et pour effectivement que nous ayons un conventionnement pour une mise à disposition. Bien sûr, après, tout ce qui est frais de fonctionnement, enfin, de frais, par exemple, d'électricité, des choses comme ça, ça sera bien sûr à notre charge. Mais nous comptons mettre, nous voulons pas faire payer cet accès, mais plutôt mettre ça sous forme d'une boîte à contribution.
Ensuite, je vais passer à Marie, hein, qui vous œuvrez donc au décroissant de thunes. Qu'est-ce que vous y faites vous-même ?
Au final, ça fait vraiment très peu, c'est-à-dire 15 jours que je suis vraiment dans l'association. Donc, pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est donc plus pour le Festival de la Gratuité, une recherche au niveau des artistes qui veulent s'engager pour ce festival, pour trouver des biens matériels. C'est plus tout ce qui est logistique pour le festival qui est en marche actuellement.
Cette volonté de monter des boîtes qui réceptionnent, ces boîtes, elles seront fabriquées gratuitement par des bénévoles aussi ou des entrepreneurs ? Comment ça se passe ?
Alors pour l'instant, on n'a pas d'idée précise. Il y a justement une discussion qui s'est lancée là aujourd'hui avec Village Vivant, puisque eux-mêmes ont dans l'idée de faire construire des boîtes à dons. Donc, il y aurait la possibilité d'avoir ces boîtes à dons à disposition pour les personnes intéressées par la pratique de la gratuité. Ensuite, en ce qui concerne l'installation de boîtes à dons dans les quartiers, là, ça reste à définir puisqu'on va essayer de travailler, voir pour obtenir justement un financement, puisque l'idée, ça serait quand même que ce soit quelque chose qui soit durable et qui ne soit pas facilement détériorable. Donc ensuite, bien évidemment, si on a des personnes talentueuses et qui veulent se manifester pour nous proposer des boîtes à dons, c'est bienvenu. Moi, personnellement, en tout cas, je n'ai pas les compétences pour bricoler ça de mes petites mains, mais l'idée, c'est quand même aussi d'avoir du participatif autour de ces créations, puisque l'idée, au-delà de la gratuité, c'est aussi de créer du lien social et de faire ensemble.
Jean-Louis, aujourd'hui, la perception de la gratuité, comment est-elle au niveau de la société ? Comment vous la ressentez ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, elle est très, très paradoxale. C'est-à-dire, on est dans un pays où globalement, tout le monde va dire de bon cœur, dans un pays comme la France,
c'est pas normal qu'on soit pas soigné parce qu'on n'a pas d'argent. Et donc, tout le monde, en gros, personne ne peut se faire élire en France en disant qu'il va supprimer la sécurité sociale. Donc, on a un énorme système qui a un budget supérieur au budget de l'État, qui fonctionne pour qu'on puisse obtenir certains biens, par exemple les soins de santé, sont obtenus selon le vieux principe libertaire et communiste de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités de cotisation, à chacun selon ses besoins de santé. Si j'ai un gros salaire, donc des grosses cotisations et que je suis en très bonne santé, en général, je ne me plains pas. Par contre, je trouve bien que dans notre société, des gens qui ont une petite cotisation parce qu'ils ont un petit salaire, bah si une voiture les renverse, qu'ils arrivent à l'hôpital, qu'on les soigne et qu'ils en sortent soignés, c'est une énorme avancée morale de la société française. C'est une gloire, je dirais, de la société française. Mais on l'identifie pas. L'imaginaire marchand a pris tellement d'importance que notre esprit se fixe sur le coût plutôt que sur cette magnifique avancée de civilisation qui fait que, en gros, tout le monde peut plus ou moins avoir accès à des soins de bonne qualité dans notre pays, même si malheureusement c'est quelque chose qui est aujourd'hui grignoté. Donc il me semble que des expériences comme ce qui se passe dans le Diwa, les Gratiferia, le festival de Barnave, les magasins gratuits, etc., donnent figure à la gratuité, nous rappellent quelque chose de très important. L'école gratuite, par exemple, c'est énorme. Moi, comme je vous disais, je vis entre le Mali et la France. Au Mali, vous avez une plaie qui s'infecte, vous avez une septicémie, il vous faut la pénicilline pour vous sauver la vie. Ben, vous allez devant la pharmacie, si vous n'avez pas les moyens, vous allez demander aux gens « est-ce que tu peux m'aider ?» La personne va dire « excuse-moi, moi j'ai ma famille, vraiment que Dieu te vienne en aide ». C'est une brutalité terrible. Même chose d'ailleurs aux États-Unis, hein. C'est pas simplement dans les pays pauvres que ça se passe. Donc les avancées de gratuité adoucissent énormément l'existence, rendent les rapports humains beaucoup plus humains, et c'est tout à fait possible. Enfin, on le voit devant nous. La seule chose, c'est qu'il y a une pression énorme pour nous faire croire que n'a de valeur que ce qui est monnayable. On l'entend tout le temps. Moi, je l'entends tout le temps. Je dirige un théâtre en région parisienne. J'ai pas mis la gratuité. J'ai mis un prix qui est 2 euros, 5 euros, 10 euros au choix du spectateur. Et j'explique aux gens, ce que vous allez vivre là, c'est sans prix. Par contre, ça a un coût. Mais je ne veux pas que quelqu'un soit humilié le soir en allant au théâtre en disant « il faut que je monte ma carte de borgne, ma carte de vieux, ma carte de chômeur, etc. » Je viens là, tout le monde est au même niveau et le tarif fait que tout le monde peut rentrer. Tout ce qui distend le marché nous rappelle qu'on est des êtres humains, on n'est pas des marchandises, on est capable de produire le sens de nos existences, et ça, c'est sans prix. Et je pense que c'est très important de le remettre. C'est très curieux, par exemple, de voir que quand Jules Ferry, c'était pas la pointe de la révolution prolétarienne, hein, mais il a eu aucune gêne à parler de l'école gratuite. On disait l'école gratuite et tout le monde savait que ça serait un des plus gros budgets de l'État. Donc il n'y avait pas cet imaginaire qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y a un travail de type idéologique, disons, à faire pour rappeler aux gens qu'il n'y a aucune honte à parler de gratuité, qu'on parle de quelque chose. Les Anglais disent « free », ça veut dire « libre », « libre d'accès ». C'est ça, tout simplement. Il y a des choses qui sont libres d'accès, qui ne dépendent pas de ce qu'on a sur son compte en banque.
Marie, à quel moment vous avez pris conscience de ce principe de la gratuité ?
À la base, surtout autour des déchetteries ou des grands magasins qui gaspillaient, qui avaient toujours des tas d'objets ou des tas de choses, on va dire, qui pouvaient encore servir, être utilisées à différentes fins. Et donc de les faire continuer à vivre, finalement, plutôt que de les voir être détruites.
Et donc, vous vous êtes attelée à créer une matériothèque ?
Non, pas du tout matériothèque.
Non.
Recyclerie, donc objets vraiment en tout genre, meubles, etc. Pour vraiment que les objets continuent à circuler, arrêter ce gaspillage. Il y a assez de, d'objets, de vêtements, de tout ce qu'on veut en libre circulation déjà fabriqué. Donc il faut s'en servir, faire prendre conscience aux gens.
Et les personnes qui viennent se fournir sont forcément des gens qui n'ont pas les moyens, ou alors il y a aussi des artistes, par exemple, qui viennent récupérer des choses, ou comment ça se passe, les personnes qui viennent vous voir?
Il y a justement tout style de personnes, autant des gens qui ont beaucoup d'argent, d'autres pas du tout, pour des fins artistiques comme pour des fins professionnelles ou utiles à la vie de tous les jours au domicile. Il n'y a vraiment pas de catégorie de gens qui viennent se servir, récupérer.
Vous avez précisé le lieu de la ressourcerie dont vous vous occupez?
Alors du coup, je m'en occupe justement plus actuellement, mais c'est à Autran, donc dans le Vercors. Elle est encore active par contre et qui fonctionne très bien, ça fait maintenant 3 ans. Et parce que les biens sont infinis, enfin, les dons sont infinis, enfin, ça tourne en permanence, donc ça marchera toujours. Ouais.
Et Françoise, pareil, aussi, au niveau du Diwa, il y a le même cas de figure au niveau de la ressourcerie et du magasin gratuit.
À propos de la récupération?
Oui.
Alors, je ne sais pas, on peut peut-être parler aussi, on parlait d'artistes qui récupèrent, on peut parler aussi de la boîte à jouer, qui effectivement aussi récupère pour effectivement permettre et pour faire jouer en fait des enfants. Je ne me trompe pas.
Oui. C'est un système de containers dans lesquels vont être choisis des objets issus de la récupération, dans l'idée que les enfants vont pouvoir les réutiliser pour créer des jeux avec. Voilà.
Oui, voilà. Et c'est une association qui est déjà passée plusieurs fois à la radio. Hein. Il y a des liens pour ça.
Et on va avoir un partenariat avec eux dans le cadre du magasin gratuit. Voilà.
Alors, ce magasin gratuit, il est où situé précisément?
Alors, pour l'instant, il est situé un peu partout, parce que dans la mesure où il n'y a pas de lieu identifié, après, donc, il devrait être effectivement dans ce pôle ressourcerie qui va donc être créé dans un des endroits de Die, donc on ne sait pas actuellement. Et pour l'instant, il vagabonde un petit peu plutôt dans les idées. Parce qu'effectivement, on est à la recherche de locaux. Voilà. Je lance un appel solennel et local pour effectivement pouvoir s'identifier. Parce que, en fait, c'est vrai qu'un local où tout est bien organisé, ça donne une autre image que peut véhiculer effectivement ces espaces gratuits où tout est un petit peu mis en désordre et rien n'est valorisé, en fait. Enfin, je ne sais pas, Amélie, tu me corriges si je me trompe.
Et puis, en plus, l'idée aussi du magasin gratuit, ça va être de fonctionner après avec... en lien étroit avec les décroissantes thunes, puisque nous, on organise donc des gratiférias et on a pris parti, parce que les gratiférias, il y a plusieurs types de fonctionnement. Il y a des gratiférias où les gens viennent avec leur stand et repartent avec leur stand à la fin de la journée. Nous, on préfère que les gens soient libres de pouvoir déposer leurs affaires et partir quand ils le veulent. Et donc, nous, on récupère, mais du coup, c'est une copine... qui stocke ça dans son garage et ça commence à être bien envahi. Donc on a vraiment l'urgence d'avoir un local pour pouvoir entreposer ses affaires de manière correcte, mais aussi ça va nous aider pour pouvoir faire du tri, parce que là par exemple on ne peut pas trier, le soir quand on finit la gratiféria on est épuisé, on met tout dans des caisses et puis on stocke ça comme ça, et du coup ça nous fait du travail quand il faut réinstaller la gratiféria pour essayer de dire aux personnes là vous pouvez trouver des vêtements femmes, vêtements enfants, etc. Donc on a cette nécessité là et puis on aimerait aussi pouvoir récupérer par exemple les boutons, les fermetures éclair des vêtements qui sont plus utilisables, ce genre de choses. Mais pour pouvoir faire tout ça, un magasin gratuit, c'est indispensable.
Je reviens vers Françoise. Est-ce que vous souhaitez donc chercher ou trouver un local? Est-ce que vous avez quelques vues sur le style ou le type de lieu que vous cherchez?
Disons que peut-être à l'idéal, ça serait avec une vitrine pour pouvoir justement avoir une transparence en fait, de l'extérieur. enfin, pour moi personnellement, et que, alors après, au niveau des mètres carrés, ben, 100, enfin, je sais pas, 50 mètres carrés peut-être, ou 100 mètres carrés déjà dans un premier temps, puisque effectivement, avec la boîte à jouer, nous avons l'intention aussi de mutualiser ces lieux. Et la mutualisation est aussi un concept très fort recherché par la communauté de communes pour effectivement ben, ne pas avoir des espaces inutiles ou utilisés par une seule personne. Voilà. Donc, ça serait, je pense, enfin, Amélie, tu peux peut-être compléter sur le volume, enfin la superficie.
On prend tout ce qu'on nous
on
donne.
Prend tout ce qu'on, voilà. Ça sera le mot, oui, pour. Voilà, exactement, tout à fait.
Je reviens vers Jean-Louis. Vous avez rédigé un livre pour la gratuité. Comment avez-vous perçu l'évolution de la société depuis cette année par rapport à l'économie et la gratuité?
Alors l'économie, vous en êtes peut-être vous-même rendu compte, ne va pas trop vers la gratuité. Le poids de l'argent est énorme, le poids de la finance dans l'argent est énorme. Hein. On dit que c'est moins de 10% de l'argent qui circule, qui représente des biens réels, matériels. Le reste, c'est de la mousse financière qui fait peser une énorme menace sur l'économie du monde. Et en même temps, comme dirait notre président, il y a beaucoup d'innovations. Alors, une des plus importantes, c'est le développement des transports urbains gratuits. Il y a une vingtaine de collectivités en France qui ont mis les transports urbains gratuits, ce qui a avec chaque fois des réussites extraordinaires, à la fois sur la fréquentation qui a toujours plus que doublé, sur l'ambiance à l'intérieur des transports gratuits puisqu'il y a plus de contrôle, donc il y a une espèce de sérénité qui s'installe, il y a plus de fraudeurs quand on met la gratuité, il y a plus de fraudeurs, donc il y a pas besoin de contrôler les jeunes, etc. Enfin ça crée beaucoup de, évidemment ça a des effets écologique, c'est-à-dire que les gens prennent moins la voiture. Enfin, donc c'est quelque chose qui, partout où ça a été fait, a vraiment provoqué l'intérêt de la population et qui est d'une certaine manière irréversible. Et puis il y a des expériences plus particulières. Bon, on a parlé ici de ce qui se passe à Die, mais par exemple, il y a plusieurs communes ou collectivités qui ont fait la gratuité des obsèques. Et ça, je trouve aussi que c'est magnifique parce que toute personne qui a un proche qui est décédé sait ce qui se passe quand on doit aller discuter le bout de gras aux pompes funèbres. Enfin, je veux pas dire de nom, mais disons dans les entreprises privées de pompes funèbres où on explique que celui-là, ce cercueil, il était patent, les gens l'aiment beaucoup, etc., etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est en décalage avec ce qu'on pourrait appeler le caractère sacré de la mort, la peine qu'on a à ce moment-là. Et l'idée que ce soit la collectivité à laquelle on appartient, dans laquelle on paye des impôts, etc., qui nous disent « Vous occupez pas de ça, occupez-vous de votre peine, de votre deuil, réunissez-vous entre vous. Nous, on s'occupe de la question financière qui va avec. » Je trouve que c'est très fort, très significatif. Donc, je pense qu'il faut être attentif à toutes ces inventions de gratuité parce que elles nous rappellent des choses essentielles de l'existence et elles évitent que des grands moments de l'existence soient rabaissés par la question d'argent.
Je voulais savoir, on peut peut-être étudier la notion de la gratuité, l'étymologie, vous en connaissez l'origine?
Alors oui, c'est lié, le mot français, c'est pour ça que je disais en anglais tout à l'heure, parce qu'en anglais, c'est plus carré, disons, free, libre d'accès. En français, c'est un mot religieux d'une certaine manière, c'est la grâce. Donc ça réfère à la grâce de Dieu qui pour ceux qui y croient, a gratuitement créé le monde, etc., sans attendre de retour. Donc c'est une notion qui est à la fois très belle, qui a beaucoup de sens, mais qui est un peu compliquée à utiliser en économie, parce que à chaque fois, il y a cette espèce de brume, disons, mystique, qui va autour du mot. Donc je pense que c'est important quand on en parle de se souvenir des deux choses, à la fois le côté technique, quelque chose devient libre d'accès en fonction de ses besoins et non plus, par exemple, la voirie, la voirie urbaine, elle est gratuite, elle est libre d'accès. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a cette résonance en français qui n'est pas négligeable non plus, qui le met à l'intérieur même du mot des notions qui touchent au sens de l'existence et non pas simplement à la technique de l'existence. Donc ça fait partie de la beauté et des complications de notre langue.
On peut rappeler la dîme, hein, par exemple, aussi, hein, qui était où le paysan laissait, ou le propriétaire laissait 10% de sa production à la population qui n'avait pas les moyens de s'acheter quoi que ce soit.
Oui, enfin, la dîme, elle passait aussi quand même par le clergé.
Oui, je sais, mais vous parliez justement de Dieu, donc ouais. Je reviens un peu là-dessus.
Oui, oui.
Cette notion de dîme, elle a disparu de toute manière avec la religion aussi.
Oui, enfin, la dîme, c'était un impôt, hein. C'est après ça, c'est vrai que l'impôt a en général aussi un rôle redistributif, donc qu'il avait quand il était prélevé par le pouvoir religieux, qu'il a quand il est prélevé par le pouvoir politique. Pas complètement, vous aurez peut-être observé que la répartition n'est pas tout à fait satisfaisante, en tout cas qu'on peut juger qu'elle n'est pas tout à fait satisfaisante. C'est un peu autre chose, mais quand même, c'est un rapport à la gratuité parce que la gratuité de beaucoup de choses a un coût. Par exemple, l'éclairage public, il est gratuit. Hein, de chacun selon ses capacités. Si moi, j'ai pas envie de sortir la nuit, je paye quand même l'éclairage public. Et je sais que c'est utile à la vie en société. Donc, il y a une contribution, mais l'accès aux biens concrets n'est pas lié à ce qu'on a dans la poche. La contribution, en plus, c'est une contribution donc, de l'impôt, donc elle est plus ou moins proportionnelle à ce qu'on gagne. Il y a un rapport entre beaucoup de... pas entre toutes les gratuités, mais entre beaucoup de gratuités et l'argent. Ce rapport doit évidemment être pris en compte.
Marie, votre activité, d'ailleurs, vous êtes dans les décroissantes thunes, mais auparavant, vous étiez donc à Autran, là, à vous occuper du magasin de gratuité. Ce magasin a évolué tout en se développant de plus en plus.
Alors oui, il s'est développé. Alors après, plus autour, finalement, on avait créé ce lieu pour en faire un endroit de partage avec différents milieux sociaux et intergénérationnels. Et finalement, il s'est développé autour de d'autres activités, peut-être plus artistiques et culturelles, comme de la danse, comme des concerts, des marches, d'autres choses autour, sportives, etc., pour vraiment toucher un maximum de personnes et faire en sorte que les gens se retrouvent un petit peu dans toute leur passion, enfin dans toute autre chose, voilà.
Et Françoise, pareil, l'activité se développe de plus en plus aussi au niveau du DIWA.
Oui, et ce qui est bien aussi, c'est que, bon, on parlait tout à l'heure de la matériothèque, et la matériothèque, effectivement, prend son essor, et c'est reconnu comme quelque chose quand même d'important, puisque des matériaux qui peuvent encore servir ne sont pas envoyés en déchetterie, mais peuvent resservir à un prix libre, voilà. Et donc, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est quelque chose, ces phénomènes comme ça de ressourcerie, de recyclerie, de magasins gratuits, de remise à disposition sont des événements très importants. Et je reviens sur la notion d'argent. J'écoutais Michel Serres dimanche, et il a dit une phrase, « Le règne de l'argent détruit tout ». Donc, je pense que c'est aussi une bonne réflexion autour de ça. Et ça veut bien dire les rapports, tout ça, les relations avec les gens. Et voilà.
Il y a un proverbe populaire qui dit très bien les choses. L'argent est bon esclave et mauvais maître. Et c'est ça, effectivement, c'est quand l'argent devient notre maître que ça détruit les relations humaines.
Par rapport, je parlais des récupérations de vêtements, par exemple, où il y a encore aujourd'hui d'ébènes qui recueillent des vêtements. Quelle est votre réaction quant à sa destination de cette récupération ?
Alors, vous parlez des bennes qui sont mises à disposition pour récolter des vêtements, mais complètement usagés. Ça, c'est dans le principe de la recyclerie, du réusage, en fait, soit dans des matériaux de tissage, des choses comme ça. Bah, disons que ça évite que les vêtements soient jetés, donc ils reviennent une seconde vie. Après, dans ces vêtements-là, il y a peut-être des vêtements qui peuvent être, qui peuvent retrouver une seconde vie parce qu'ils vont être raccommodés, ils vont, voilà. Donc,
commercialisés aussi.
Enfin, il faut faire attention avec ces bennes, c'est qu'il y a un gros flou. Je crois qu'il y a énormément de personnes qui pensent que les vêtements qu'ils mettent dans ces bennes-là vont être redistribués aux personnes nécessiteuses. Alors effectivement, il y a des bennes pour ça, il y a des bennes de la Croix-Rouge, du Secours Populaire, mais qui sont clairement identifiées. En revanche, toutes les bennes vertes, la plupart du temps, ça va être des entreprises comme Veolia, qui s'en servent pour faire de l'isolation ou pour renvoyer dans des pays d'Afrique pour que des, moi j'appelle ça des esclaves, travaillent à refaire de l'habit avec qui sera vendu. Donc c'est monétarisé et ça je pense qu'il y a très clairement de la désinformation qui est faite autour de ça et c'est important de le dire et d'informer les personnes.
Et dans ce même ordre d'idées de monétarisation, de commercialisation, il y a un magasin qui effectivement maintenant pratique ce genre de choses et qui récupère les vêtements usagés. Et contre un nombre de vêtements, vous avez un bon de 15% pour acheter, pour acheter chez eux, quoi. Voilà. Donc il y a tout un esprit auquel il va falloir faire attention pour qu'effectivement ce genre de choses ne dévie pas et voilà et que ce soit vraiment une valeur qui soit vraiment bien présente dans ce phénomène de redonner une seconde vie. Voilà.
Est-ce que ces constatations vous impliquent à peut-être monter une charte de la gratuité?
Oui, on a déjà nous réfléchi à des chartes. Après, moi personnellement, hein, je vais parler en mon nom parce que je pense qu'on a besoin encore de temps pour tous bien se connaître et puis savoir où on a envie d'aller et quels sont nos points de vue. Mais pour moi, la gratuité, c'est aussi une question de liberté et j'ai pas envie de mettre trop de règles autour de ça. Si des personnes, par exemple, parce que souvent on m'a dit, mais tu te rends compte, les gratiférias, c'est bien gentil, mais il y a des personnes qui profitent. Alors déjà, bon, ça me fait un petit peu doucement rigoler. Mais même une personne qui prendrait pour aller revendre sur des vide-greniers, etc., moi je me dis que finalement, ça va répondre à un de ses besoins, qui va être à ce moment-là d'avoir de l'argent, parce que justement, on est dans une société où c'est très difficile de vivre sans argent et qu'à des moments donnés, on a besoin de payer son électricité, son eau, de nourrir ses gamins. Et que si les personnes elles ont besoin de passer par là, qu'elles y aillent. Mais généralement, moi, ce que j'ai observé au niveau des gratiférias, c'est que même des fois, simplement de ce besoin de remplir un vide, on va prendre. Et puis finalement, on va s'apercevoir qu'on peut aussi redéposer les affaires quand on n'en a plus besoin, quand on s'aperçoit qu'elles nous encombrent. Et de se dire que finalement, comme elles sont là et qu'elles sont facilement accessibles, on n'a pas besoin de stocker tant que ça et que finalement, c'est bien pratique la gratuité pour se débarrasser. Et de se dire qu'en fait, le jour où j'en ai besoin, c'est là. Par exemple, mon appareil à raclette dont je vais me servir deux fois dans l'année. Si je sais que tout le monde se dit à un moment donné, nos appareils à raclette, on les pose au magasin gratuit. Je sais qu'automatiquement, le jour où j'ai besoin d'un appareil à raclette, je vais le retrouver dans le magasin gratuit. Enfin, c'est une image comme ça, mais pour moi, la gratuité, c'est ça, c'est de se donner la liberté de laisser les choses fonctionner, faire confiance aussi à l'humain pour s'auto-éduquer finalement, pour faire lui-même ses propres expériences et voir à quoi ça l'emmène. Voilà.
Françoise, tout à l'heure, vous parliez de coûts, de traitement, de ce que vous récupériez. Vous réfléchissez aussi à la réduction du coût dans votre démarche?
Ah ben c'est une démarche donc effectivement dans le cas de la refonte des déchetteries, puisque effectivement tout ce qui va être récupéré sur le territoire, c'est quelque chose de moins qui va être emmené donc par la CCD, et effectivement ça engendre un coût moindre en tonnage. Ce qui va se passer pour la matériothèque, nous, pour l'instant, c'est pas encore évalué, mais je pense que ça serait une bonne démarche aussi de voir à comment on contribue au fait, justement, à ce moindre coût des déchetteries. Et puis, ça évitera aussi certainement l'encombrement dans les déchetteries qui pullulent et où il faut des allers-retours de camions. Enfin, dans un territoire où on est prôné dans le développement durable, bon, ça semble un petit peu insensé. C'est pour ça que toutes ces innovations, tout ce qui est mis en place est vraiment de très, très bonne aloi.
Jean-Louis, vous serez présent en juillet à Barnave cet été ?
Je ne pense pas. Je crois que je serai en Afrique à ce moment-là. Mais je suis venu quand même
En 2015.
Ouais, en 2015, je suis venu, j'avais beaucoup apprécié. J'ai de la famille dans la région aussi.
On va parler de ces organisations bientôt festives. Du 24 février et 24 mars, la Gratiféria, donc, qui sera proposée à l'espace social, je suppose.
Oui, à la salle communautaire, avec, comme d'habitude, un petit repas partagé. Donc, ça se passe de 12h à 17h. Donc, l'idée, c'est de passer un temps convivial entre 12 et 14 heures, et puis ensuite d'installer la Gratiféria, faire nos échanges. Et si des personnes ont envie de venir animer ces événements avec une petite animation, soit musicale ou proposer un atelier, c'est bienvenu.
L'idée du troc, ça rentre aussi en ligne de compte dans ce que vous faites ?
Alors là, je vais laisser Amélie répondre parce que effectivement, c'est d'une de ses valeurs.
Alors, pour moi, enfin, la gratuité, c'est aussi donc c'est différent à la fois du caritatif. Et du troc, parce que ce sont plusieurs fonctionnements différents. Le caritatif, ça va être, on va aider le plus faible que soit, alors que la gratuité, son but, c'est vraiment de nous mettre tous sur un pied d'égalité. Et c'est un petit peu la même chose avec le troc, dans le sens où on ne va pas forcément donner une valeur spécifique à quoi que ce soit. Les échanges vont se faire, mais vont se faire de manière plus libre, plus détourné, c'est-à-dire dans le sens où, comme je vous ai parlé tout à l'heure de cette histoire d'appareil à raclette, eh ben je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir aussi trouver, moi, dans les gratiférias, des choses qui vont m'être utiles.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Ouais, en fait, le mot que je cherche depuis tout à l'heure, c'est que la différence, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie directe. Voilà. Le troc, c'est une contrepartie directe. La gratuité, c'est une contrepartie indirecte.
Marie, votre activité vous prend beaucoup de temps au sein des décroissants de thunes ?
Oui et non. Après, c'est le temps que moi, je veux investir aussi dans cette activité, du coup, pour ce projet. Donc, pour moi, je trouve que ça ne me prend pas de temps. Après, chacun finalement l'entend comme il veut. Pour moi, ça ne me prend pas de temps. Enfin,
vous avez une activité professionnelle en marge qui permet justement d'aborder ce domaine aussi, cette démarche ?
Alors en ce moment, non. Après, je suis saisonnière, donc du coup, j'ai la chance de... Enfin, c'est ce que j'ai choisi, de travailler quand j'ai vraiment besoin d'argent, donc de choisir quand je travaille. Pour le moment, j'ai choisi de ne pas travailler justement pour me consacrer à l'association, au collectif.
Et je pose la question à Françoise, pareil, hein, l'engagement vous prend beaucoup de temps dans cette gratuité ?
Disons que oui, enfin un petit peu, en participant aux rencontres, aux réunions, c'est vrai que je ne me suis pas encore trop investie dans les gratiférias, mais j'ai voulu laisser de côté les décroissants de thunes et plutôt être plutôt sur le magasin gratuit. Mais bon, c'est du temps de bénévole et je pense que si j'ai du temps libre, je peux aussi me consacrer à faire quelque chose de bien, de positif, d'utile, quoi, voilà. Donc ça me prend le temps, j'ai mes créneaux et puis...
Je disais, on choisit notre temps finalement, donc voilà. C'est pas, y a rien de contraignant.
Voilà, puis c'est pas compté. Bon.
Et pareil pour Jean-Louis, vous ne comptez pas le temps que vous consacrez à la gratuité ?
La question du temps, c'est la question essentielle. D'ailleurs, Amélie parlait tout de suite de liberté, le lien entre la liberté et la gratuité.
Le temps gratuit, le temps qu'on ne vend pas, on l'appelle temps libre. Hein, c'est-à-dire, c'est un temps dont nous sommes maîtres et dont nous faisons. Dans le temps libre, on fait des choses qui, si par exemple je suis chauffeur de car, j'amène des gens en vacances au bord de la mer, en ayant vendu mon temps, et après ça, quand je le fais pour moi-même avec ma famille, c'est dans mon temps libre. Donc, on peut produire la même chose, du déplacement de personnes, en temps libre et en temps... dans l'histoire des derniers siècles, c'est une question absolument essentielle, c'est-à-dire, il y a pas si longtemps... une grande partie de la richesse de l'Europe s'est faite en vendant des personnes tout entières, c'est-à-dire on vendait la personne et puis peu à peu on a abouti à interdire, à rendre la personne humaine inaliénable et puis à rendre une partie de plus en plus grande du temps humain inaliénable, c'est-à-dire que la limitation légale du temps de travail fait qu'on dit il y a une partie du temps humain que tu n'as pas le droit de vendre et que tu n'as pas le droit d'acheter. Et ça, c'est une des plus grandes avancées de la civilisation, parce qu'au fond, on peut très bien imaginer qu'une part beaucoup plus réduite du temps soit mise sur le marché. Tout ce qui est fait là autour du DIY, etc., qui fait que l'économie monétaire prend moins d'importance dans la vie des gens, ben ça veut dire aussi que la nécessité de vendre de son temps prend moins d'importance. Quand on vend, on devient le subalterne de celui à qui on a vendu quand on vend son temps. Quand on ne le vend pas, on s'accorde avec les autres. Bien sûr, souvent quand on agit avec les autres, mais on s'accorde avec les autres sans qu'on nous prenne pour des enfants, pour des bébés, à nous dire ce qu'on doit faire, etc. On agit vraiment là en adulte, en personne émancipée. Et donc ce lien entre la gratuité du temps, la liberté humaine et l'émancipation, c'est-à-dire notre capacité à agir en être autonome, adulte, etc., est très lié, intimement lié à la question de la gratuité et de la démarchandisation de la personne humaine, c'est-à-dire de dire non, je suis une personne humaine, je ne suis pas à mettre sur le marché.
Et puis on va parler aussi de ce festival hein, du 21 et 22 juillet qui aura lieu à Barnave, le festival de la gratuité, il est bien parti pour cette date ?
Oui, là on a pas mal de personnes qui se mobilisent, notamment... des personnes autour d'Avignon, de l'Ardèche, des personnes aussi du côté de Gap, du Dévoluy. On a même un Belge qui est ultra motivé. Enfin bon, on a des personnes qui viennent d'un peu de partout et qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Je pense notamment aussi à une conférencière. On va avoir une conférence gesticulée d'une personne qui vient de Bordeaux, une autre qui vient de Grenoble, c'est un peu plus près, mais quand même. Voilà, des personnes qui vont nous apporter du matériel pour la sonorisation, pour les lumières. Voilà, on a pas mal de choses qui commencent à se mettre en place. Je ne vais pas vous faire la programmation. J'espère bien revenir dans ces locaux pour en parler autour d'une émission à ce sujet. Mais ça a l'air de bien prendre cette année.
Vous n'avez pas d'appel à lancer encore pour le moment ?
Bah, l'appel, il est permanent, c'est-à-dire venez faire de la gratuité avec nous, venez rejoindre à l'aventure et on est ouvert toute l'année de toute façon à travailler parce qu'il y a le festival de la gratuité, mais il y a les gratiférias et puis il y a aussi ce que vous avez envie de proposer. Ça peut être un événement dans l'année gratuit, un spectacle, n'importe. Il n'y a pas de... comment dire, tout ne se fiche pas autour des événements qu'on a déjà proposés. Là, c'est le but du collectif, en tout cas des décroissantes thunes, c'est vraiment d'expérimenter la gratuité au maximum. Et donc, chaque personne qui a envie de nous rejoindre est bienvenue.
L'émission se termine hein, bientôt. Je vais peut-être faire un tour de table pour demander à chaque intervenant si il y a un site internet où on peut s'intéresser à la chose. Alors, à commencer par vous... Amélie.
Oui, alors pour l'instant, on a un groupe sur Décroissante Thune, sur Facebook pour les Décroissantes Thunes et aussi pour le magasin gratuit. Là, je viens de connaître une plateforme qui s'appelle Communecté, donc sur laquelle on va commencer à créer des choses, à se pencher dessus un petit peu, mais pour l'instant, je connais pas bien le fonctionnement, donc ça va se faire tout doucement. Il y a des sites internet qu'on va rééditer, je ne sais pas encore lequel on va utiliser. Il y avait un site internet sur Wix qui s'appelait Décroissant de Thunes, je crois, et puis Festival de la Gratuité sur WordPress. Donc on va réutiliser un de ces sites-là pour parler des activités des décroissants de thunes, et puis le magasin gratuit, c'est à voir. On est des petits bébés là qui viennent de naître, donc il faut nous laisser le temps de grandir.
Jean-Louis Sago, vous-même avez un site internet aussi?
Oui, j'ai publié un blog régulièrement où il y a beaucoup d'articles sur la gratuité, qui est jlsagoduvoroux.wordpress.com. Et puis, comme je vous disais, le livre pour la gratuité est à de libre disposition sur internet sur le site des éditions de l'Éclat. Hein, qui met la plupart des livres qu'ils éditent en libre lecture sur Internet.
Voilà, ce sont des livres dématérialisés, on est d'accord. Hein,
Le livre existe en papier, il y a livre papier, et, c'est-à-dire le livre est payant et le texte est gratuit. Et c'est très intéressant là de penser ça, parce que le livre est un petit objet, une petite marchandise industrielle de très bon aloi qu'on peut avoir envie. J'ai découvert un texte, j'ai envie de faire un cadeau à quelqu'un, j'achète le livre. Et en même temps, le texte est présenté dans son caractère de sans prix. Et ça, je trouve que c'est très significatif. Et du reste, de façon, je ne sais pas si c'est la Providence qui le fait, mais depuis qu'il fait ça, cet éditeur vend davantage d'ouvrages qu'avant d'avoir ce double usage du texte.
Et Jean-Louis, dans ton livre aussi pour la gratuité, tu avais fait une postface, enfin dans ta postface, un petit texte sur ton passage à Barnave, voilà. L'édition 2015.
Et puis, je vais terminer avec Marie, peut-être qu'il pourrait nous parler de la ressourcerie d'Autran.
Au final, je suis pas sûre. Enfin, elle rentre finalement dans le partage, dans l'économie sociale. À la base, c'est pas non plus un magasin gratuit, parce que du coup, on s'auto-finance. Donc, c'est un magasin où les gens payent ce qu'ils prennent, parce qu'il y a quand même finalement un loyer, de l'électricité, du chauffage et tout plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et l'idée était de ne pas justement vouloir de subventions de l'État, de la commune et d'autres acteurs, de vraiment être autonome à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si ça peut vraiment rentrer. Je peux vraiment donner ce contact-là. Enfin, voilà.
Et moi, je voudrais rajouter dans les liens, c'est que nous avons un mail aussi qui est pour un magasin gratuit. @gmail.com, où on peut bien sûr nous contacter à tout moment du jour et de la nuit, puisque ça fonctionne 24/24.
Et du coup, il y a une boîte Gmail aussi pour les décroissants de thunes, c'est pareil, c'est lesdécroissantsdethunes@gmail.com.
Et peut-être un tout petit mot sur Internet.
Oui.
C'est vraiment un outil où la propriété intellectuelle fuit. Et ça, c'est très intéressant. Il y a des fuites dans la propriété intellectuelle. Il y a énormément d'échanges de connaissances gratuits qui se font sur Internet. Je parlais des transports publics, je parlais des obsèques. Internet, c'est énorme comme potentialité d'échanges non marchands.
Eh bien, l'émission se termine et donc je vous remercie tous quatre d'être venus. Amélie, Jean-Louis, Françoise et Marie. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci,
au revoir.
Merci, à bientôt. Merci.
Okay, the bird.